répondre à l'appel d'être sauvé. Au nom de Jésus. Amen. J'ai passé une soirée vendredi avec des gens qui ont dépensé des centaines, voire des milliers de dollars pour aller prendre des cours bibliques. C'était à New York, à Shoshana, où nous avions une amie qui a eu une graduation de 5 années de suite, où elle allait à ce camp-là. Et on est allé à cette graduation-là. Et ils dépensent des centaines, des milliers de dollars parce qu'ils viennent de Chine, d'Afrique, d'Europe, d'un peu partout dans le monde. Puis ils dépensent, puis eux autres, leurs vacances cet été, c'est d'aller étudier à New York, dans ce camp-là. Et quand même, c'est respectable que ces gens-là disent « J'ai quelques vacances dans l'année, je dépense des centaines, voire des milliers de dollars, l'avion, tout le kit, mon ami, pour aller recevoir la parole de Dieu. » Et ce sont donc des gens de qualité, à mon avis, ce sont des gens qui estiment la parole. Et en plus de voir l'amour pour la parole, on voit chez ces gens-là aussi un amour pour les gens, assez particulier. C'est une atmosphère de camping. Nous avons couché dans notre nouvelle minivan, Stéphanie et moi. Steph a dit qu'elle n'a pas dormi. Moi, j'ai très bien dormi. Je lui propose de partir une semaine comme ça avec notre minivan. Je ne sais pas si ça va marcher. Donc, c'est une atmosphère relaxe. C'est une atmosphère où tu n'as pas une brassée de lavage qui t'attend ou une inquiétude pour le soir ou le lendemain. Tu es là pour 2 semaines, 3 semaines, des fois 5 semaines à ce camp-là. Et donc, c'est un temps pour faire une coupure pour ces gens-là. Et pour moi, même si c'était juste vendredi, c'était une coupure entre le avant et le après. Et c'était un repas puis une formation toute la soirée. Et c'était un temps de réflexion. C'est un temps où je devais moi-même évaluer la valeur du ministère, la valeur du ministère que chacun de nous avons reçu. Dans 2 Corinthiens 5:19, il nous dit « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. N'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. » Ça, c'est votre ministère. Vous êtes des ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'était un moment de réflexion pour réaliser le ministère que nous avons reçu. Est-ce que je réalise la valeur du ministère qui m'a été confié? Dieu a mis en moi une parole, la parole de la réconciliation. Dieu a mis en moi l'Esprit de Dieu qui supplie les autres de se réconcilier avec Dieu. Est-ce que je réalise vraiment la valeur de mon ministère? Est-ce que je réalise que je suis dépositaire du message qui réconcilie des hommes avec Dieu? On a un message qui ramène des hommes à Dieu, puis on a un message qui ramène des chrétiens à Dieu, parce qu'on a un message de grâce. On a un message accompagné de grâce. Hein? Et c'est important, c'est la semaine prochaine que je vais parler de la grâce de Dieu et comment notre message est particulier. Est-ce qu'on réalise qu'on a un message de grâce? Hein? Mais aujourd'hui, ce n'est pas de ça que je vais parler. Je vais parler qu'on a la parole, on a le ministère d'une parole qui a été mise en nous. Il a mis en nous la parole de réconciliation. Et on a reçu un ministère d'ambassadeur. Une autre question qui m'a frappé lorsque je regarde les nouvelles ces derniers temps, c'est est-ce que je sais dans quel temps je vis? Je veux dire, on est sur la pointe des pieds, puis le Seigneur est sur le point de nous chercher. Là. Je veux dire, comme s'il venait en hélicoptère, on est juste sur le bord qu'il nous prenne. Là. Je veux dire, un chauffeur fou qui rentre dans une foule, qui est compressée comme une boîte de sardines, ne peuvent pas aller ni à gauche ni à droite. À Nice, un coup d'État en Turquie, un monde en pleine ébullition. Est-ce que je réalise que je suis dans les temps de la fin? Hein? Et il y a deux signes, Jésus nous a dit dans Matthieu 24, au verset 8, qui annoncerait le commencement de la fin, c'est quand les guerres ne seraient plus de localité envers une localité, mais des nations envers des nations. Lorsque les guerres seraient de niveau international, ça serait le commencement de la fin. Et donc, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, c'est le son de trompette qui dit, prenez-vous, c'est pas la fin, mais c'est le commencement de la fin, Jésus nous a dit. Et lorsque les tremblements de terre, les famines, les catastrophes naturelles vont augmenter, et lorsqu'on regarde la deuxième partie du dernier siècle, puis la première partie, on voit que les tremblements de terre, ça n'a pas du tout rapport le nombre de tremblements de terre. Ça a augmenté de façon exponentielle. Et donc, il n'y a rien qui nous laisse attendre le deuxième retour de Jésus-Christ qui est imminent, qui pourrait arriver aujourd'hui, pendant que je prêche ou ce soir, dans votre sommeil? Est-ce que je sais, est-ce que je réalise le temps dans lequel je suis présentement et le ministère qui m'a été donné? Dieu est dans une business, dans ce verset-là, d'annoncer la grâce de Dieu, de réconcilier des hommes avec lui. Dieu est riche en pardon. Dieu, il ouvre la porte toute grande, puis il dit n'importe qui, peu importe ce que tu as fait, c'est pardonnable. Tu peux venir et être sauvé, puis avoir la vie éternelle dans le nom du Fils. Dieu est dans une business d'annoncer la réconciliation, d'annoncer la grâce. Et on voit dans Actes 17, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Qu'est-ce qu'on voit dans ce verset-là? Que Dieu annonce partout et en tout lieu que les hommes ont besoin de se repentir, c'est-à-dire changer d'attitude envers Christ, envers eux-mêmes, envers Dieu, envers leur vie, hein? Et comprendre qu'est-ce qui arrive avec leur vie parce qu'un jour de jugement qui s'en vient. Un jour où Dieu va juger le monde. Mais présentement, on est dans l'ère de grâce 2016. C'est cette ère où Dieu n'impute pas les péchés aux hommes et leur offre une imputation de péché, c'est-à-dire que leur péché a été imputé sur la personne de Jésus-Christ. Et donc, il est possible aujourd'hui pour chaque homme de changer d'attitude face à Dieu, face au péché, parce que Dieu n'impute pas le péché aux hommes. Et Dieu donne une période de temps, et nous sommes dans cette fenêtre de l'histoire unique de l'humanité où nous pouvons amener des hommes des ténèbres à l'admirable lumière du Fils pour qu'ils se sauvent éternellement ou qu'ils soient sauvés éternellement en croyant en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle. C'est une période de temps pour donner l'opportunité aux hommes de revenir à Dieu. Est-ce que je sais mon ministère? Est-ce que je sais dans quel temps je vis? Dieu a un temps fixé pour le jugement. Ce ne sera pas drôle. Est-ce que je réalise que Dieu, la manière de Dieu d'annoncer à tous les hommes et partout où ils se trouvent, pourquoi est-ce que Dieu, et comment Dieu fait-il pour annoncer maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils peuvent être réconciliés avec lui? C'est par moi. C'est par où? C'est par l'Église. Il a mis en nous la parole de réconciliation. Excusez, ça me rend sensible un petit peu de savoir que... que c'est un appel extraordinaire, mais que c'est un enjeu éternel. Dieu intercède en nous pour que les hommes soient réconciliés avec lui. Est-ce que je suis trop préoccupé par les détails de cette vie? De quoi est-ce que je serai vêtu? Quels seront mes loisirs? Que je ne prends pas le temps de voir qui je suis et qu'est-ce que ce temps représente pour moi, mais aussi pour ceux qui ne le connaissent pas. La parole aujourd'hui n'aura pas pour but de condamner personne. Elle est accompagnée de grâce. Le verset qu'on étudie dit justement, il parle de la grâce de Dieu. C'est Colossiens chapitre 4, verset 5. Nous sommes reprochables. Nous sommes reprochables, mais Dieu désire nous faire grâce. Attristez-vous pas. Réjouissez-vous. Parce que la grâce de Dieu nous enseigne que Dieu n'a pas fini avec nous et qu'il veut nous traiter selon sa bonté qu'on ne mérite pas. Mais c'est l'amour de Dieu qui nous presse, par exemple. L'amour de Dieu vient presser sur notre cœur pour qu'on ne soit pas seul au ciel. Que nos frères, que nos sœurs, que nos mères, que ceux qui ne le connaissent pas puissent être aussi réconciliés. L'amour de Dieu ne veut que personne ne périsse, presse sur nos cœurs. Le verset de 2 Corinthiens 5 qui dit « Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs », le verset 14 dit « C'est l'amour de Dieu qui presse sur nos cœurs. Hein? » Et donc cet amour-là presse parce que cet amour ne veut que personne ne périsse, mais il veut que tous changent d'attitude envers Jésus-Christ, envers Dieu, envers leur propre état de perdition. Ma question pour vous aujourd'hui, c'est est-ce que vous réalisez qu'on est dans un temps périlleux de l'histoire? Est-ce que vous réalisez la valeur que Dieu vous donne en faisant de vous son ambassadeur? Êtes-vous trop préoccupé? Qu'est-ce qui vous préoccupe dans cette vie? Être important dans le monde? Avoir une bonne retraite? Être en sécurité? Pas manquer de rien? Être populaire? Qu'est-ce qui vous préoccupe? Est-ce que le fait qu'il y a des millions de gens qui meurent chaque jour sans croire à la bonne nouvelle vous préoccupe? Vos préoccupations révèlent votre cœur. Car là où est votre cœur, là va être votre trésor. Si vous êtes préoccupé, c'est là qui est votre trésor. Ce qui vous préoccupe, c'est là votre trésor. Si c'est la peur d'en manquer, votre trésor, c'est des biens matériels. Vous êtes matérialiste. Si vous avez peur d'en manquer et que c'est tout ce qui vous concentre, vous êtes matérialiste. Pas juste si vous voulez être riche. Si vous avez peur d'en manquer, c'est pareil. Matthieu 6, 19 dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mites et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les mites et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien ces ténèbres seront grandes. » Verset 24 de Matthieu 6. « Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez ou boirez pour vivre, ni de ce que vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux dans le ciel, ils ne sèment pas, ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne tissent pas, et cependant, je vous dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été d'aussi belle tenue qu'elle. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le cherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même, et à chaque jour suffit sa peine. Le moment présent, il est important, chaque jour suffit sa peine, et c'est le temps d'être concentré sur le royaume de Dieu et la justice qui est donnée par Jésus-Christ à la croix. Donc, Jésus, dans ce verset-là, nous dit que les véritables trésors, ce sont les trésors qui sont dans les cieux, où la rouille et les voleurs ne peuvent pas percer. Hein? Il nous parle aussi que l'œil malade ou une personne qui a un problème au niveau de la vision conduit tout le corps dans les ténèbres, c'est-à-dire que toute sa personne ne saura pas comment se diriger. Une personne qui est préoccupée par autre chose que ce que Dieu nous montre dans les Écritures, la lumière de Dieu, eh bien, elle est dans les ténèbres et elle ne sait même pas où elle s'en va. Hein? Elle a un œil malade et tout son corps est malade. Ensuite, on voit que si je me consacre pour de l'argent, soit je me consacre pour de l'argent, soit je me consacre pour Dieu. Et Jésus nous dit, on ne peut pas avoir deux maîtres. Soit on sert Dieu puis il prend soin de nos besoins, soit on sert l'argent et on se sert nous-mêmes. Et les soucis de s'enrichir ou l'inquiétude d'en manquer dévient le cœur du royaume de Dieu et tout est autour de posséder ou avoir peur d'en manquer. Dans tout ce chapitre-là, hein? Dans tous ces versets-là que nous avons lus. Et donc, les soucis de s'enrichir, l'inquiétude d'en manquer, dévient notre cœur des vraies richesses, qui est de se préparer à rencontrer notre Dieu et aider d'autres personnes à rencontrer le Seigneur aussi. C'est le temps de chercher le royaume de Dieu et la justice qui s'obtient par la foi en lui. Dans Proverbe 13, au verset 5, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Et donc, on va se tourner aujourd'hui dans la Bible et puis on va étudier Colossiens chapitre 4, verset 5, qui nous dit « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Aujourd'hui, on va se concentrer sur le verset 6 ici et surtout sur la partie B du verset 5, « Rachetez le temps et que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. » On ne va pas vraiment parler du message de la grâce aujourd'hui, comme je disais, mais le titre de mon message, je vais le donner à la fin parce que là, je ne l'ai pas devant moi, mais l'idée, c'est de racheter le temps pour pouvoir parler. Racheter le temps pour pouvoir parler. Et donc, dans le dernier message qu'on avait eu vers la fin juin, on avait vu que notre conduite était la première chose dans ce passage-là qui est important envers les gens du dehors. Et la conduite qu'on a devait être pleine de sagesse au regard des gens du dehors. On a vu que ceux du dehors, ce n'était pas les ceux qui sont dehors, c'est ceux qui ne sont pas encore rentrés. On a vu que notre façon de vivre était l'appât pour les gens qui n'ont pas encore rentré, pour voir que marcher avec Dieu, c'est une vie d'abondance, c'est une vie pleine, et c'est la vie que Dieu destine chaque homme et chaque femme. Et donc, notre façon de vivre passait avant nos paroles, et qu'on devait marcher avec sagesse pour être un témoignage dans notre environnement qu'on est des enfants de Dieu. Et donc, aujourd'hui, on va prendre le temps de parler de racheter le temps encore. On va revenir sur la description un petit peu de ce que ça voulait dire dans le grec, racheter le temps. Le temps, ce n'est pas quelque chose que tu peux mettre dans un compte de banque comme l'argent ou en garder un peu pour plus tard, en prendre un petit peu à chaque semaine. Tu peux accumuler du temps sur ta paye, mais on s'entend que le temps, c'est quelque chose qui avance et qui... on n'a pas le choix de vivre avec. Mais, regardez bien ce que ça veut dire dans l'original. Les experts du grec disent c'est acheter l'opportunité pour soi-même, faire un usage utile et sacré de chaque moment pour faire le bien, pour que le zèle et le bien-faire soient, et ils le sont, la monnaie d'échange par laquelle nous nous approprions le temps. Donc, c'est de prendre l'opportunité que le temps nous donne pour faire le bien, hein, et avoir le zèle et bien faire, et que ce soit une manière de s'approprier le moment, hein, le temps et le moment. Ramsey dit, c'est remplir votre magasinage complet dans cette occasion-là. C'est comme tu vas au Walmart, tu ressors, tu dis, j'ai acheté tout ce que je voulais acheter. Durant cette période de temps que j'ai été sur la terre, dans le temps que je suis présentement, j'ai l'impression que je suis en train de prendre les opportunités qui me sont offertes pour faire profiter le temps. Et donc, je le fais profiter dans cette occasion-là. Et un autre, c'est ils doivent saisir les opportunités quand elles se produisent de faire le bien envers ceux qui sont dehors et alors promouvoir ainsi l'Évangile. Racheter le temps. La manière de vivre devient un contraste avec les gens qui ne sont pas encore entrés. Le chrétien gagne du temps quand il est honnête, intègre, quand il obéit à la parole de Dieu parce qu'il montre qu'il n'est pas Il ne suit pas le vide de ses pensées, mais qu'il a lui-même une éthique et un Dieu qu'il veut plaire. Les gens le voient vivre et ils vont venir le voir à un moment donné et vont dire « t'es différent des autres ». On parle en mal du boss, tout le monde parle en mal du boss, puis toi, j'ai vu que quand on fait ça, tu te retires ou tu ne parles pas. J'ai vu que tu étais différent. Es-tu chrétien? Ça, quand les gens peuvent venir te voir et te dire ça, c'est vraiment une fleur parce que tu as racheté le temps. Hein? Tu as racheté le temps, pourquoi? Parce que tu as utilisé les occasions que tu avais pour être un témoignage, et là, on commence à avoir une différence, et on veut savoir quelle est la vérité que tu crois qui te rend différent. Et là, ton message vient de gagner beaucoup d'importance. Tu as racheté le temps. L'inverse, si tu vis comme les gens du monde, tu as perdu du temps. Pourquoi? Parce que la personne non-croyante va dire, pourquoi je croirais en ton Dieu? Tu n'es pas différent de nous autres. Et donc, ils vont dire, parle plus fort, tes œuvres t'enterrent. Tes œuvres parlent fort aussi. Et donc, la façon de vivre nous aide à racheter du temps. Et aujourd'hui, on veut progresser dans cette idée de racheter du temps. Et donc, on veut considérer les temps dans lesquels nous sommes. Et donc, faire usage de notre temps de la manière la plus profitable possible. Lorsque j'étais au camp, j'ai rencontré Monsieur, lui, il s'appelle Simon Slotke et il est marié et père de 4 enfants. Il fréquente Bétériel à Montréal. Il gagne sa vie en enseignant la musique à l'université. Il donne aussi des cours le soir en privé, pas mal. Et il me dit comme ça, on se croise dans les salles de bain, il dit, moi, il dit, j'aimerais ça étudier en théologie davantage parce qu'il dit, je reconnais que j'ai un don d'enseignement et les temps sont mauvais. Il me dit ça comme ça, les temps sont mauvais. Il aurait pu dire, je me cherche un travail plus stable pour ne pas être obligé de travailler le soir et être plus de temps avec ma famille, ce qui est très louable, ou encore un travail qui rémunère plus au lieu d'une vie un petit peu d'artiste, ou encore être plus visible comme artiste. J'aimerais ça être plus visible comme artiste, tu sais, dans mon plan de carrière. Tu sais. Ça fait 4 étés qu'il passe tous les étés pendant 5 semaines à aller se faire former. Il aurait pu dire ces choses-là, hein, mais il y a d'autres choses qui étaient sa priorité. C'est qu'on est dans des temps particuliers de l'histoire et il veut être formé en théologie. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît les temps dans lesquels nous vivons. Hein? Dans Éphésiens, au chapitre 5, verset 14, c'est pourquoi il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Il parle à des croyants ici. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Donc, le verset ici nous dit qu'on est dans des temps mauvais. On en est, depuis la croix, depuis la crucifixion, on est dans la fin des temps. Le commencement de la fin des temps, c'est dans notre siècle actuel, selon les prophéties de Jésus, comme je disais tantôt. Les temps sont mauvais. Et ce qui motive cet artiste-là, qui pourrait avoir une renommée internationale, c'est d'étudier encore plus, de savoir qu'est-ce que le Seigneur a à dire. Connaître la volonté du Seigneur, ne pas être inconsidéré parce qu'on est dans la fin des temps, et la fin des temps, ce sont des jours qui sont mauvais. Il veut étudier pour comprendre la volonté du Seigneur. Il veut étudier pour avoir quelque chose à dire. Et lorsque vous prenez l'opportunité du temps qui vous est donné pour connaître la parole de Dieu, vous accumulez avec vous une possibilité de parler quand va venir le temps, quand on va vous poser la question. Quand on va vous poser des questions, vous allez avoir quelque chose à dire. Parce que celui qui écoute parlera toujours, les Proverbes nous disent, dans Proverbe 21, verset 28. Celui qui écoute parlera toujours. Comment est-ce qu'on rachète le temps? Puis on dit, oh, mais je ne sais jamais quoi dire bon, dans ces temps-là. Lis, étudie ou mémorise. Et écris cette parole-là ici, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme mauvais sort des mauvaises choses de son mauvais trésor. L'homme bon sort des bonnes choses de son bon trésor. Ou tu peux jouer à Pokémon Go. Tu peux trouver des choses qui n'existent pas. Ça fait bouger du monde, hein, Pokémon Go. À Central Park, vous marquez ça, Pokémon Go, Central Park. Ils ont mis un gros Pokémon à Central Park. Tu vois des milliers de personnes partir à courir. Ceux qui ne savent pas, c'est la map du monde est au complet sur cette application-là. Puis ils déposent des créatures que quand tu mets ta caméra, tu la vois. Ils appellent ça la réalité augmentée. Parce que ce n'est pas la réalité. Il y a un gugus qui est exactement à cet endroit-là, dans le fond, virtuellement. Puis quand tu mets ta caméra devant, il se trouve qu'il est localisé avec un GPS, puis tout le monde le voit à même place. Là, ce sont des milliers à y lancer, des petites boules, là, pour faire tomber cette chose-là. C'est la réalité augmentée. Et si on parlerait de réalité, que quand tu fermes les yeux et que tu médites la parole de Dieu, elle s'écrit dans ton cœur et te donne la possibilité d'en parler au bon moment. Mais c'est drôle, je pense que je vais télécharger l'application. Ça a de l'air drôle. Je ne suis pas contre ça nécessairement. Non, OK, pas de Pokémon, c'est pas de Dieu. OK. OK, le passage aujourd'hui dit « Rachetez le temps ». Rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Si vous rachetez le temps en étudiant, si vous rachetez le temps en sachant qu'est-ce que Dieu dit des choses, quand les gens vont vivre ces choses-là, vous allez avoir quelque chose à dire pour ces choses-là parce que vous allez avoir racheté le temps. Un autre homme, c'est un professeur d'université du Texas qui était assis à côté de moi. On avait été en 2013 manger du Montreal Smoked Meat, du Smoked Meat de Montréal. Que c'était bien, ils connaissent ça, eux autres aux États, ils veulent tout venir manger du Smoked Meat à Montréal. Donc, on avait été là ensemble. Et puis, il me racontait qu'il est rendu à sa deuxième maîtrise à l'université en divinité, puis un autre, c'était en ministère pratique, je crois. Et il enseigne dans une université. Et il me disait que tous ceux qui passent par cette université-là, que tu veux être docteur ou ben non, que tu veux être théologien, si tu veux être médecin ou dentiste ou n'importe quoi, si tu passes par cette université-là, tu es obligé de faire des cours en théologie. Et lui, il enseigne. Il dit, Jean-Sébastien, la majorité des gens dans ma classe ne sont pas sauvés. Ils n'ont pas la vie éternelle. J'ai dit, waouh, quelle opportunité. Il dit, notre directeur, il dit, un jour, il y a une fille qui est allée le voir, puis elle a dit, je veux vous remercier de mettre ces cours-là obligatoires dans l'université, parce qu'elle dit, si ce n'était pas de ces cours-là, je ne suis pas sûr que j'aurais reçu la vie éternelle. Et depuis ce temps-là, il s'est assuré que ça demeure obligatoire, parce qu'il sentait que c'était la survie des gens. Et donc, le professeur, il dit, wow, il dit, je ne sais pas combien de temps notre culture ou notre gouvernement va nous le permettre encore aux États-Unis de faire ça. J'ai dit, nous autres, oublie ça, ça fait longtemps qu'on a perdu ce droit-là. Fait que j'ai dit, rachetez le temps dans votre culture, laissez ça sur la place publique le plus que vous êtes capable, protestez, gardez ce droit-là le plus possible. Mais il dit, je ne sais pas pour combien de temps notre gouvernement va nous le permettre et il doit profiter des portes qui sont ouvertes. Et je veux parler des portes qui sont ouvertes dans la vie des gens. Il y a un temps où il y a des portes qui s'ouvrent dans la vie des gens et c'est le temps d'amener la parole. Mais il faut être prêt. Il faut être prêt à ce moment-là, lorsque les portes vont s'ouvrir, d'être prêt à parler. Si on a racheté le temps, pas de problème, on a des réserves, on peut parler. Celui qui écoute parlera toujours. Un enfant grandit et les portes sont grandes ouvertes. Papa, maman, raconte-nous encore l'histoire de Goliath. Hein, ils sont là, puis nous autres, on est fatigués. On dit, pas à soir. Tu sais. Les enfants, ils veulent qu'on leur raconte des histoires de la Bible. Ils ont soif parce qu'ils ont été créés pour ça. Ils ont été créés pour écouter des histoires de la Bible et croire en Dieu. Mais vient à un moment donné, plus que la personne grandit, vieillit, plus les portes se referment. Au commencement de la vie adulte, les jeux sont faits. Ça, c'est comme quand tu joues au blackjack ou je ne sais pas quoi, là, puis qu'on dit, les jeux sont faits. C'est comme tu ne peux plus mettre ta mise. Là. Eh bien, nous, en tant que parents, on ne peut plus mettre notre mise comme on voulait avant. Avant, c'est le jeune qui disait, enseigne-moi, papa, enseigne-moi. Puis là, à un moment donné, l'adolescence arrive, puis à un moment donné, la vie adulte, les gens se figent. Chacun d'entre nous, nous nous sommes figés dans un système de croyances et de valeurs qu'on a commencé à s'installer dans la vie. Trouver un travail, trouver un conjoint, combien d'enfants qu'on va avoir. On est en train de tout figer ça. On est en train de se cimenter dans un système de valeurs. Et il y a des statistiques qui disent que 85% des gens qui acceptent le Seigneur le font avant l'âge de la fin des études postsecondaires. C'est quelque chose. C'est comme s'il y a quelque chose qui se figeait, puis après, ça va s'ouvrir seulement quand il va y avoir des crises, décès, déménagement, ou des changements importants comme déménagement, changement de carrière, des fois divorce, ce genre de moment-là. Ouh! Là, le cœur se rouvre encore, puis là, c'est le temps, on lance la parole dans ça. Okay? Et il faut être prêt pour ces moments-là. Okay? Et c'est pourquoi il faut racheter le temps, étudier, connaître la volonté du Seigneur, ne pas être inconsidéré, mais connaître la volonté du Seigneur, parce qu'à un moment donné, il y aura des portes qui seront refermées. En Israël, pour empêcher que le jeune se referme dans un système de valeurs ou de croyances qui n'était pas de Dieu, on en mettait le maximum dans le cœur du jeune. À l'âge de 5 ans, il devait connaître les 5 premiers livres de la Bible, puis à l'âge de 12 ans, il devait connaître tout l'Ancien Testament par cœur. Bien, quand je ne dis pas le citer nécessairement, mais il devait répondre à plein de questions qui montraient qu'il maîtrisait tout l'Ancien Testament. Et à 12 ans, on faisait la bar mitzvah, qui voulait dire « fils de la loi ». Et Jésus l'a vécu ça à l'âge de 12 ans, où le jeune allait à Jérusalem, puis on le déclarait « fils de la loi ». Ça voulait dire « t'en connais assez pour être responsable pour tout ce que tu as entendu ». Et en Israël, pour protéger que quand le jeune, il s'éloignerait pas, on en parlait en toutes circonstances. Toutes circonstances. On en parlait dans la maison, en voyage, au dodo, au réveil. Je pense qu'on a un verset là-dessus. Oui. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Il y a une petite boîte noire hein, que plus tard dans la tradition on a mis avec des franges aussi pour se mémoriser des versets. Verset 19, « Vous les enseignerez à vos enfants, vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Donc, l'idée, c'était de parler beaucoup de la parole de Dieu, d'utiliser les temps pour parler beaucoup de la parole de Dieu à nos enfants. Il y a un article sur les jeunes qui abandonnent l'Église d'un gars qui s'appelle Ed Stetzer. Son site, ça s'appelle « The Exchange ». Il disait que il y a à peu près 27 % des jeunes qui quittent l'Église entre 17 et 19 ans. Dans son article, que j'ai trouvé ça intéressant, il va donner des facteurs communs des jeunes qui vont continuer à aller dans une Église dans leur âge adulte, de jeune adulte. Les facteurs communs de ceux qui continuent en tant que disciples dans l'Église. Le jeune, il dit « Je voulais une Église qui me guide dans mes décisions ». Chaque jour. 2. Mes parents sont encore mariés et les deux fréquentent l'Église régulièrement. 3. La prêche m'interpelle. 4. Au moins un adulte s'est investi dans ma vie entre l'âge de 15 à 18 ans. Et donc, ça ne veut pas dire que s'ils n'ont pas toutes ces quatre-là, ils vont quitter, mais s'ils n'ont pas un de ces quatre-là, statistiquement, ce sont plus des gens qui ne vont pas persévérer nécessairement dans le plan de discipleship, de discipula que Jésus a prévu pour chaque croyant. Alors, les trois conseils que Ed donne dans son article, il dit il y a trois endroits pour acheter le temps avec les jeunes. 1. Disciple, 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 qu'il dit. Il dit si votre ministère de jeunesse consiste à commander de la pizza à chaque semaine pendant 4 ans, il dit, surprenez-vous pas que les jeunes ne resteront pas dans votre groupe de jeunesse, puis qu'ils ne resteront pas dans l'Église non plus. Il dit, s'ils apprennent la parole de Dieu et qu'elle peut avoir une pertinence pour leur vie, ils vont rester. Hein? Et donc, c'est important. Le ministère de jeunesse, l'éducation chrétienne, que les jeunes présentement, que Simon investit ou les autres professeurs qui sont en arrière, la jeunesse avec Gilles, avec Ben, c'est tellement important. Avoir une maison avec deux parents engagés. Lui-même, l'auteur, dit « Ma mère est monoparentale, elle aime le Seigneur de tout son cœur, mais il dit « Je ne peux pas passer à côté que statistiquement, ceux qui ont deux parents, que les deux vont de l'avant, puis qui aiment le Seigneur, puis qui se consacrent, ils font vraiment augmenter les statistiques des jeunes qui ont le goût de devenir eux aussi des disciples de Jésus-Christ. » Okay? On va relire le verset de Deutéronome 11:9 et j'aimerais que vous portiez l'attention non pas sur l'enfant, mais sur le parent. Ça, c'est adressé aux parents. « Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. » Quelqu'un a déjà dit, c'est facile d'amener les gens à la parole, mais c'est une autre chose d'amener la parole aux gens. C'est quelque chose d'amener les gens à la parole, mais c'est une autre chose d'amener la parole dans les gens. Et le parent, sa première responsabilité, c'est d'aimer le Seigneur de tout son cœur et de se consacrer à l'œuvre de réconcilier des hommes par le projet de l'Église. Okay? Donc, les enfants ont besoin d'avoir des parents consacrés. Les deux, si les deux sont dans la famille, les deux, ça va augmenter beaucoup les opportunités. Je vais parler d'un autre point pour ceux qui seraient monoparentales. Il y a des figures masculines ou des papas. Il y a d'autres papas dans l'Église, des hommes qui peuvent continuer la relève à ce niveau-là, si le papa n'est pas croyant. Mettez dans votre cœur et dans votre âme les paroles que je vous dis. Ça commence par le parent. Ça commence par le croyant qui va avoir mis dans son cœur puis dans son âme les paroles de Dieu. Il va connaître la volonté du Seigneur. Il va connaître les temps dans lesquels nous sommes. Ce sont des jours mauvais. Puis elle va avoir connu la volonté du Seigneur, cette personne-là. Et lorsqu'arrive le décès, on arrive sur le lit de mort de papa, de mon frère, de ma cousine. J'ai quelque chose à dire. Hein? J'ai quelque chose parce que j'ai mis dans mon cœur les paroles du Seigneur. Il parle aux parents. parce que l'homme qui écoute parlera toujours. Hein? Le Proverbe 21, verset 28 qu'on a lu tantôt. Encore un autre passage qui nous parle des parents ici. Deutéronome 6, 6. « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Premièrement, dans ton cœur. « Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Et donc, il y a encore cette idée que la parole, il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est à nous de la garder, c'est à nous de s'entretenir de cette parole-là pour être capable de réconcilier des hommes avec Dieu. Troisième conseil qu'il donne, c'est reconnaissez que ça prend une église pour avoir d'autres adultes qui parlent dans la vie des jeunes. Même si vous êtes marié et que vous êtes consacré, la jeunesse et l'éducation chrétienne, c'est une autre porte d'accès parce que hein, le salut vient toujours d'en dehors. Hein? Jésus le dit, aucun prophète n'est reçu dans sa propre patrie. Fait que soyez pas, tout ce que vous allez avoir semé, c'est quand même ça qui va porter du fruit, mais ça va venir par un autre souvent. Parce qu'on est familier, on prend pour acquis souvent. Et donc, d'avoir d'autres adultes qui ont un impact sur la vie des jeunes, c'est important. Donc, ça, c'est une autre chose qu'il recommande. Et donc, c'est pour ça que nous sommes reconnaissants pour Ben, Gilles et ceux qui enseignent à l'éducation chrétienne, qui prennent du temps avec nos jeunes, parce qu'ils offrent une protection à nos jeunes. Est-ce qu'on peut les applaudir? La Bible donne des belles promesses dans Proverbes 22, versets 4 à 6. « Des épines et des pièges sont sur la voie de l'homme pervers. Celui qui garde son âme s'en éloigne. Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Donc ici, les pièges, on est dans un monde sans Dieu. On est dans un monde, le mot « monde » veut dire un monde organisé contre Dieu. C'est un système qui est tout, si on laisse notre jeune dans le monde puis qui n'est pas entretenu par la parole de Dieu, le jeune éventuellement va rentrer dans les pièges et les épines. Il va se blesser sur le sentier de la vie et son cœur va devenir tortueux, pervers. Il va devenir loin de la réalité. Hein? Et donc, il va avoir des pièges, mais celui qui garde son âme, et comment est-ce qu'on garde son âme? Eh bien, c'est en serrant la parole dans notre cœur qu'on peut réussir à faire ça. C'est en recevant les instructions pour ne pas s'éloigner du sentier. Hein? Il ne se détournera pas de la voie. Il y a la voie de l'homme pervers, qui est l'homme qui ne connaît pas Dieu ou qui ne reçoit pas ses instructions, devient tordu, va tomber dans des pièges. Celui qui garde son âme, comment est-ce qu'il garde son âme? Il est lui-même instruit et il instruit ses enfants, mais il est lui-même instruit selon la voie qu'il doit suivre, puis c'est de cette voie-là qu'il ne s'éloigne pas. Et quand il sera vieux, ça veut dire 40 ans dans la Bible, vieux? Qui a plus que 40 ans ici? La main, là, ouais. Elle est vieux. On n'est pas supposé demander l'âge aux femmes, hein? C'est vrai. Mais après 40 ans, je veux dire, vous êtes encore jeune. Vous êtes belle à 40 ans, mesdames. Donc, je n'ai pas dit pour les autres âges, je n'ai rien dit, là. Je ne me calerai pas, là. OK. Voilà, je continue. Preach. Quand elle sera vieux, qu'elle sera vieille, elle ne s'en détournera pas après 40 ans. Ça veut dire que ce qui a été mis là, même si elle est partie dans un pays étranger comme le fils prodigue, ce qui a été placé là, c'est de profiter de ce temps-là pour mettre la parole quand c'était le temps, c'est là. Inquiète-toi pas. Pendant l'étude de ceux qui quittaient les 24%, il y en a 70% qui sont revenus durant cette étude-là quand même. Ils sont revenus durant le temps qu'ils faisaient l'échantillonnage puis qu'ils ont vu que la personne s'est éloignée. Ils ont suivi les jeunes, tu sais. Bien, il y en a 70 qui étaient revenus pareil. Mais il y en a qui vont revenir juste, mais qui seront vieux, 40 ans et plus. Parce qu'ils vont réaliser que ce n'est pas juste ça la vie, de faire ce que je veux, de faire, tu sais. Puis ils vont revenir à ce moment-là parce qu'il y a des choses qui ont été déposées. Donc, c'est un réconfort pour nous qui avons investi chez les jeunes, même si on ne les voit plus persévérer avec le Seigneur, de savoir ce qui a été mis dans leur cœur. Ils ne s'en éloigneront pas quand ils vont être plus vieux. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est réconfortant pour celui qui parle, que les paroles que tu as données serviront de sel, que votre parole soit assaisonnée de sel. Le sel, ça servait à empêcher la corruption. Avant qu'on ait les frigidaires, qu'est-ce qu'on faisait? Où est-ce qu'on mettait notre viande? Dans de l'eau et du sel. Hein? On faisait de la fermentation avec ça, puis on gardait ça des mois. Hein? Fait que vous pouvez fermenter du stock, c'est vraiment intéressant. Moi, je fais ça avec du... c'est quoi je fais, Stan? Comment ça s'appelle, là, l'affaire? gingembre. Je fais fermenter du gingembre. Il paraît que c'est bon pour les intestins. Bon, pour en revenir à notre sel, le sel, il sert de protection. Et donc, à chaque fois que tu peux parler la parole de Dieu à un jeune ou à une personne, ça va avoir servi de protection contre la corruption des pensées de ce monde. Donc, ils vont avoir une protection sur leur vie parce qu'ils ont écouté la parole de Dieu. Même si ça ne sert pas tout de suite, ça va avoir quand même éventuellement fini par servir à ce que cette personne-là ne s'éloigne pas. Hein? Et donc, racheter le temps, c'est utiliser l'arme que nous avons contre le système du monde qui est contre Dieu. Et le dernier verset qu'on va regarder aujourd'hui, c'est dans Romains 12, 1 et 2. Notre façon de combattre la corruption qui existe dans le monde, les pensées sans Dieu qui existent dans le monde, c'est le renouvellement de l'intelligence. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par des compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu qui est bon, agréable et parfait. Toi, tu es là, tu lances du sel, de temps en temps, tu jases. T'sais. La personne n'a pas le choix. Il y a un certain respect pour l'amitié, la relation. Mais tu donnes des vérités comme ça. Le renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire la personne change ses pensées pour des nouvelles pensées qui sont plus conformes à celles de Dieu, a l'effet d'enlever la corruption ou de ralentir la corruption qui existe dans le monde. Ne soyez pas comme le monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et donc, notre arme à nous, c'est nous-mêmes de ne pas penser comme le monde et puis de recevoir les paroles qui vont arrêter la corruption, le sel. Et donc, en conclusion aujourd'hui, racheter le temps, c'est de faire un usage sacré du temps pour rendre notre temps utile. Et on le fait comment? On le fait par la lecture, par la mémorisation et par l'étude. On s'en sort pas. Si vous rachetez le temps en étant des lecteurs sérieux de l'Écriture, que vous la mémorisez, vous avez un problème dans votre vie à un endroit en particulier, prenez les versets, prenez une concordance, cherchez les versets sur cette vérité-là, mémorisez-les par cœur et votre vie va devenir selon la volonté du Seigneur. Ce qui est bon, agréable et parfait, et vous allez être transformés parce qu'il y a des nouvelles pensées vont avoir remplacé des pensées corrompues qui vous amenaient dans des difficultés. Et c'est comme ça que vous allez avoir quelque chose à dire pour les autres. Votre vie va être du sel pour les autres, elle va aussi donner soif pour les autres. Mais la semaine prochaine, on va parler encore plus du message de la grâce de Dieu et comment on peut parler avec grâce aux gens et assaisonner de sel. On parlera plus là-dessus. Pour le moment, ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est que si vous écoutez, lisez, mémorisez, vous parlerez toujours. Vous parlerez au moment convenable. Amen. Alors, pour terminer, on va fermer les yeux ensemble. Est-ce que vous réalisez que vous êtes dans des temps périlleux? C'est la question que je vous ai posée au début. Ces temps périlleux-là, ces temps de la fin-là, est-ce qu'ils vous motivent à vous consacrer à connaître Dieu? Est-ce que vous voulez considérer la valeur de votre ministère qui est d'être un ambassadeur? Connaître Dieu pour mieux le faire connaître. Est-ce qu'en tant qu'ambassadeur, vous voulez être mieux équipé pour pouvoir répondre à chacun lorsqu'il vous pose des questions? Comme le verset nous dit, rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. C'est quoi qui vous préoccupe ce matin? Qu'est-ce qui vous préoccupe ces temps-ci? Êtes-vous préoccupé par ce qui préoccupe le cœur de Dieu? Dieu veut prendre soin de vous. Êtes-vous inquiet? Dieu veut s'occuper de votre inquiétude pour que et il puisse prendre soin lui-même de vous. Venez à lui, vous qui êtes fatigué et chargé, il va vous donner du repos. Il va prendre soin de vous, mais est-ce que vous voulez être préoccupé par ce qui préoccupe le cœur de Dieu? Et ce qui préoccupe le cœur de Dieu, c'est d'aller réconcilier des hommes avec lui-même. Voulez-vous laisser Dieu prendre soin des choses secondaires? Imaginez faire partie d'une église qui est préoccupée par ce qui préoccupe le cœur de Dieu. Imaginez une après-midi ou une soirée entre frères où on ne fait pas que parler du sport ou des choses intrigantes de la vie, mais on parle de ce qu'on a découvert dans la Bible. Imaginez une église dont vous faites partie, qui parle beaucoup parce qu'ils ont beaucoup écouté. Des perles tombent de leur bouche, vous avez le goût de prendre un calepin pour écrire qu'est-ce qu'ils viennent de vous dire. Imaginez notre église, des jeunes qui aiment le Seigneur et qui vont parler du Seigneur à leurs amis à l'école parce que c'est la fenêtre la plus grande où il y a le plus de gens qui se convertissent. Imaginez un réveil parmi la jeunesse. Seigneur Jésus, nous sommes dans des temps qui ont commencé à être les temps de la fin de la fin, comme tu nous l'as prophétisé dans Matthieu 24, au verset 8. Je te demande pardon, en mon nom et au nom de notre Église, Seigneur Dieu, parce que nous sommes souvent trop préoccupés par ce qui ne te préoccupe pas. Nous sommes souvent trop inquiets pour la nourriture et le vêtement, alors que ce sont les non-croyants qui devraient s'en inquiéter. On est préoccupé à devenir quelqu'un dans le monde. On est préoccupé à notre retraite, nos loisirs, nos vacances. Moi, je te demande pardon, Seigneur Dieu, parce que pendant qu'on est préoccupé à toutes ces choses-là, toi, tu pleures dans le ciel parce que tu uses de patience et que tu veux que plusieurs soient sauvés. Puis nous, on est indifférents, Seigneur, à ceux qui se perdent. Puis on dit, oh, ça ne m'adonne pas. Oh, ça ne m'adonne pas. Oh, ça, non, c'est pas mon genre. Puis on se discrédite nous-mêmes d'étudier, de mémoriser. Ah, moi, j'ai pas de mémoire. Fait qu'on se trouve toutes sortes de raisons, Seigneur Dieu, pour passer comme à côté de ce qui te préoccupe, papa. Seigneur, on est dans les temps de la fin. Puis Seigneur, t'étires l'élastique, Seigneur Dieu, le plus possible. Tu uses de patience, Seigneur Dieu, voulant que plusieurs soient sauvés, papa. Seigneur, je te prie. Je te prie pour des gens qui sont sérieux avec la Bible, qui la lisent, qui l'étudient, qui la mémorisent et qui sont transformés. Je te prie pour des, quand on est ensemble, je veux entendre des versets. Je veux pas juste qu'on parle de sport ou de choses intrigantes, papa. Je veux pas que ce soit juste quelques enseignants qui prennent la parole. Mais je veux que des ados parlent de ce qu'ils vivent avec Dieu. Seigneur, je te prie pour un réveil chez nos jeunes, Seigneur. Je te prie que tu les touches particulièrement de ton amour. Amen. Proverbe 25, verset 11, dit « Comme des pommes d'or et des ciselures d'argent, ainsi est dit une parole dite à propos. » Les pommes d'or, c'était comme une pomme jaune. Puis les ciselures d'argent, c'était des paniers qui étaient tous travaillés en argent. Puis il dit, comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? J'aurais pu te servir ça dans une boîte de carton, mais ce fruit qui nourrit ton âme, qui rafraîchit ta personne, t'a été servi par le plus beau des paniers. Et ça, c'est quand il y a des paroles qui sont dites à propos. Que votre parole soit pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin de savoir comment il faut répondre à chacun. Et que vos paroles aussi puissent être un témoignage que vous appartenez à Jésus. Amen. On va finir avec un chant.